Laure Mioune-Crozet a publié depuis 13 ans 8 ouvrages avec une caractéristique forte. Chaque mot y trouve une place juste, mesurée, exacte. Nous avons échangé d'autres mots en 2019, à l'époque où Le Beau Monde, son roman publié chez Albin Michel, étrillait la petite bourgeoisie française. Je la retrouve quelques années plus tard, en octobre 2023, dans le bureau de Béatrice Riant pour Made in Korea. On a mis de nouveaux mots sur sa façon d'approcher l'écriture. Laure Mioune, bonjour.
Bonjour Joël.
Nous allons faire une interview sobre. Je t'expliquais le principe au micro, je le répète à nouveau. Tu as un tas de cartes en face de toi, c'est un oracle que tu peux mélanger amoureusement. Il y a 63 cartes, donc 63 possibilités de questions. Ni toi, ni moi savons sur quoi ça va tomber. Donc c'est tout le principe de cette interview où la surprise est de rigueur. Et c'est ce que j'adore parce que ça fait quelque chose qui n'est pas formaté, qui n'est pas cadré, qui est spontané. Alors, vas-y, œuvre. La première carte que tu tires est la numéro 15, le diable de poussière. Embrasser le chaos.
Ah, j'aime bien, ça a l'air très très bien là comme programme.
Oui, je trouve que ça commence bien aussi dans la première question que j'avais envie de te poser sur tes processus d'écriture. Est-ce que, en fait, écrire, c'est embrasser le chaos pour après l'ordonner ?
Je suis assez d'accord avec ça. En effet, moi j'aime bien prendre... En fait, ce qui m'intéresse, ce sont les recoins obscurs, les parts d'ombre des gens. Donc je prends toujours, c'est ce que je dis d'habitude, de l'incandescent pour le rendre plus universel, l'adoucir un peu pour que ça soit acceptable pour les autres. Mais j'aime bien tout ce qui est incompréhensible, horrible, atroce, bizarre, étonnant... J'ai cofondé un salon qui s'appelle Mauvais Genre et c'est tout à fait ce qui m'intéresse. Donc j'aime beaucoup cette carte.
Donc embrasser le chaos, ça veut dire que quand tu te retrouves devant ton ordinateur, donc je suppose que tu écris devant un ordinateur.
Absolument.
Est-ce que c'est déjà structuré dans ta tête, c'est déjà bien posé ou tu te laisses beaucoup surprendre ?
Au départ, j'ai une idée paradoxale, une idée fine, où pour une nouvelle, j'ai la chute. En général, j'ai la chute. Et à partir de la chute, j'essaie de trouver le chemin qui pourrait me mener, plutôt qui pourrait mener le lecteur, à cette chute complètement inattendue. Donc j'essaie de trouver un chemin qui semble mener ailleurs, et ensuite je le manipule jusqu'à qu'il arrive à cette chute-là. Et au moment où il la découvre, il se dit « Ah, j'ai mal lu, je l'ai lu au premier degré, j'aurais dû le lire au 17e degré. » Donc c'est vrai que... mais le chaos, est, pour moi, c'est vraiment la matière même de l'écriture. Après, il s'agit effectivement d'organiser tout ceci pour que ça forme un ouvrage. Et ça, c'est le filtre, le travail intellectuel. Mais j'aime partir de quelque chose que je ne comprends pas du tout, que je ne maîtrise pas du tout. Et même pendant le processus d'écriture, à un moment, le personnage décide d'être quelqu'un d'autre que celui auquel j'avais pensé. Et c'est lui qui vient mettre un peu de chaos. Donc,
ah, ça t'arrive aussi, ça, que soudainement, le personnage devienne savonnette et hop, il t'échappe et il va dans un autre recoin.
Ah, complètement. Au départ, je prends une sorte de loser, un tocard ou quelqu'un qui est plutôt désagréable. Et ensuite, souvent, ça n'arrive pas toujours. Enfin, ça dépend des lecteurs. Mais les lecteurs me disent, mais j'ai adoré ce personnage. J'aimerais pour Made in Korea, les lecteurs aimeraient une suite. Alors que moi, j'ai déjà côtoyé ce pauvre gars. Je les surplombe jamais. Jamais de mépris pour mes personnages. Mais souvent, ce sont des... Ouais, soit ils sont peu recommandables, soit vraiment ils sont peu enviables. Mais je ne sais pas pourquoi, ils finissent par gagner le cœur du lecteur. Bon, pas pour Le Beau Monde, mon éditrice n'aimait pas le personnage principal qui est absent, c'est narlésienne, le personnage ne vient pas. Mais mon éditrice a trouvé elle a adoré le livre, elle l'a vraiment soutenu, défendu, relu avec un sérieux et avec passion. Mais elle trouvait le personnage désagréable. Alors que pour d'autres, cette jeune femme qui ne vient pas à son propre mariage,
incarne le
exactement chez Albin Michel, et bien pour d'autres, ce personnage incarne une forme de liberté. Donc ça dépend du lecteur, mais en tout cas moi qui suis un peu comme leur maman, et bien souvent ils me surprennent parce qu'ils font des sortes de crises d'adolescence absolument inattendues et ils mettent du chaos dans quelque chose que je voyais de façon plus linéaire, en fait.
Alors, parlons justement de ce loser tocard qui est le héros de ton dernier livre, Made in Korea. Mm-hmm. Lui, il m'a beaucoup amusé. On peut se projeter quand même sur ce loser tocard, parce qu'il se rend compte qu'à un moment ou à un autre, c'est le principe un peu aussi de la connexion, il doit se bouger. Parce que, voilà, il a du surpoids, il a du diabète, donc tout le monde lui recommande de surveiller son alimentation, d'aller faire du sport, et il décide d'aller faire du sport dans sa patrie d'origine. Et là, je t'ai entendu dans d'autres interviews, donc c'est un peu triché, mais je sais que tu as bossé comme une malade sur la documentation déjà, avant de te lancer à l'intérieur de cette aventure.
Absolument. Alors, c'est vrai que j'avais une certaine légitimité, puisque comme mon personnage, je suis née en Corée, ensuite j'ai grandi en Suisse, puisque j'ai été adoptée très jeune. Mais oui, en fait, c'est une collection sur sport et littérature. Donc, j'étais obligée d'inclure un sport. Et je me suis dit, ce serait rigolo de travailler sur la Corée. Mais en même temps, j'en viens. J'ai apprivoisé un petit peu la culture coréenne par le cinéma. À un moment, j'allais juste à des festivals de cinéma pour voir les films coréens.
Qui sont souvent des films assez, aussi assez trash.
Il y a pas mal de chaos aussi.
Oui, justement, oui.
Très rock'n'roll. Mais il y a toujours une fibre sociale. On sent que l'âme coréenne est quand même là. Même dans les pires thrillers, il y a toujours une histoire d'amour ou de filiation. Il y a toujours quelque chose de sensible.
Il y a
un bon fond, même chez les gros salauds. Et il y a toujours quelque chose de comique. Ils sont toujours tragicomiques, les Coréens, c'est ça? On dit que ce sont les Italiens de l'Asie. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu mélodrama chez les Coréens, même quand c'est un film qui est censé être effrayant, horrible, atroce, même immoral. Il y a quand même certaines valeurs qui sont sous-jacentes dans le film. Tout ça pour revenir, donc oui, j'ai dû bûcher beaucoup parce que entre connaître un petit peu pour le plaisir, bon, surtout la gastronomie, parce que je suis très très gourmande, et les seuls termes que je connais, c'est pour commander donc un immense festin coréen. Et il m'a fallu, pour pouvoir travailler sur la Corée sérieusement, j'ai lu une soixantaine de romans, maintenant une quinzaine d'essais. J'en avais lu beaucoup sur le diabète, alors ça, c'était pas pour travailler dessus, mais finalement, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais utiliser cette matière.
Parce que toi-même en es affectée, donc du coup, oui, tu t'es renseignée sur toi-même aussi.
Alors ça, c'était pour moi, oui. Quand j'ai appris, il y a une année et demie, que j'avais un diabète, qui en plus est un diabète génétique rare, qui s'appelle MODY, M-O-D-Y, c'est un acronyme, je ne sais même pas acronyme de quoi. Et on n'a pas trouvé même le gène responsable de mon diabète à moi. Donc c'est vrai que c'était un peu bizarre. Mais comme j'avais lu tous ces ouvrages, je me suis dit que mon personnage pourrait être sédentaire au départ du roman et puis ensuite il pourrait aller faire du taekwondo. Je me suis beaucoup renseignée sur le taekwondo, mais je peux même pas faire une prise. Hein. Je ne sais même pas comment on tombe en taekwondo. Je reconnais un peu, parce que dans les films de mafieux, ils donnent beaucoup de coups de pied, donc je peux un petit peu reconnaître certaines choses de taekwondo, mais je serais incapable de pratiquer deux secondes ce sport.
Mais lui, il va aussi avoir beaucoup de problèmes pour le pratiquer, parce que jusqu'à présent, il est plutôt rivé devant son écran d'ordinateur, et soudainement, c'est un sport extrême dans lequel il précipite, ce pauvre gars.
Alors, lui, il a l'habitude, tel l'utaku japonais, il est habitué à rester chez lui et à consommer de la nourriture qui lui arrive.
Oui, il se fait tout livrer, quoi.
Il se fait tout livrer, il est vraiment asocial, presque sociopathe. Et comme il a cette maladie, il sait que chez lui, il ne va pas pouvoir aller dans un fitness, courir dans la rue, même si c'est les jolies rues de Paris. Et donc, il décide d'aller faire du taekwondo en Corée parce qu'il se dit qu'il y a un sport qui pourrait l'aider à être un petit peu plus en forme et que la nourriture coréenne est effectivement très saine. Et comme il est originaire de Corée, lui, il est normand. Il a été adopté en France, il vit à Paris parce qu'il est concepteur de jeux vidéo, donc ça tombait bien pour lui, hein, il pouvait avoir le mode de vie qu'il souhaitait, que la Corée pourrait être un moyen aussi de découvrir sa culture d'origine.
Mm-hmm.
Bon, il ne va pas être super, je ne veux pas divulgâcher, mais ça ne va pas être, il ne va pas être hyper bon en taekwondo très rapidement, on va dire ça comme ça.
Déjà, le premier endroit où il débarque, c'est assez croquignol.
Alors, la petite pension, je suis allée la revoir parce que j'étais fact-checkée en 4 jours avec Karine Bozin, une amie photographe, une amie d'enfance qui, depuis, a eu un Swiss Press Award, qui a même été... donc, elle a eu un article dans le New York Times et, je crois, 2 fois Time Out Shanghai. Mais à l'époque, elle avait été assistante de Depardon, donc le grand photographe et réalisateur. Mais elle n'était pas encore la star qu'elle est maintenant. Donc, elle avait plus de temps et je lui demandais si elle était d'accord de venir 4 jours avec moi vérifier. Je me suis dit qu'il y a qu'elle qui aurait pu avoir la patience d'aller voir un centre de taekwondo. On n'était pas sûr que même des gens débarquent faire des démonstrations parce que le lendemain, ils avaient des examens. Et elle a attendu sagement à côté de moi en photographiant les sièges, quantité le béton, quantité de matière. Et ensuite, elle a vu pendant 40 minutes, je crois, des gars faire exactement le même mouvement, sauf un qui ressemblait un peu à Johnny Weissmuller, qui faisait des poses exprès pour la photographe. Donc lui, je ne sais pas s'il a eu ses examens, s'il a réussi ses examens. En tout cas, il nous a beaucoup fait rire. Et donc, cette photographe a fait... J'aimerais faire un diaporama avec, avec les images qu'elle a prises, parce qu'elle a adopté le point de vue de mon personnage. Et donc, on est allé dans la pension. Oui, on est allé.
La pension, ouais.
Oui, j'étais déjà allée plusieurs fois. C'est à Insadong-il, donc la petite... Enfin, pas tout à fait. C'est une rue qui donne sur Insadong-il, une des plus anciennes rues de Séoul, Arts and Crafts. C'est-à-dire qu'il y a du papier de bonne facture, il y a des pinceaux, des poteries, d'art ancien coréen, d'artisanat, mais artisanat très haut de gamme. Et moi, j'ai beaucoup logé dans cette petite pension. Et je suis retournée et j'ai vu qu'il y avait encore des produits comme avant le Covid, qui étaient des grandes, c'est pas du tout des petits échantillons individuels, mais des grands, je sais pas, des dentifrices complets, des sortes de tubes pour de la crème, ce genre de choses que tout le monde utilise. Hein. Bon, à mon avis, les fréquentations, il doit y avoir les backpackers et puis quelques professionnels.
Oui, c'est ce que j'ai compris justement en lisant.
Mais les deux, à mon avis, un peu les deux.
D'accord, ouais. C'est vrai, quand on parle comme ça, puis que tu me dis que en fait, la Corée, c'est un peu l'Italie, il y a un côté un peu comédie à l'italienne à l'intérieur du ton de ton livre. C'est que, ouais, il va faire preuve de beaucoup de bonne volonté, mais il va aussi prendre beaucoup de cuites.
Il va prendre des cuites, il va même se prendre un coup dans la figure, même plusieurs. Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours de la peine avec les romans qui évoluent de façon linéaire, où le personnage progresse. Alors, j'adore les romans de formation. J'ai vraiment été bouleversée par Martin Eden, de Jack London. Mais il faut que ce roman de formation ne soit pas juste, je dirais, un film américain pour grand public où le personnage progresse puis réussit. Ça ne m'intéresse pas du tout, peut-être que ça intéresse certains des lecteurs, mais ça ne m'amuserait pas du tout d'écrire ceci. Donc lui, il passe d'un échec, d'un échec à un autre échec jusqu'à la victoire finale un peu.
Ah ça, oui, en demi-teinte, mais oui, il y a une victoire, oui, oui. C'est vrai.
Mais je voulais aussi ajouter que je ne surplombe pas mes personnages. C'est-à-dire que quand tu as dit que tu pouvais te reconnaître un petit peu, en tout cas où le lecteur pourrait se reconnaître dans mon personnage, on me dit toujours, mais vous êtes proche de quel personnage? Quel rapport vous avez à vos personnages? Je dis, c'est un peu tous mes personnages ont mes défauts, certains de mes défauts exacerbés. Mais il n'y a pas un seul personnage dont je ne me sens pas proche ou que je juge comme s'il avait... des défauts que je ne possède pas. Donc, je pense que c'est ça qui fait que je les rends un peu sympathiques et que je peux pas les juger puisque c'est une partie de moi aussi. Et puis aussi, je ne juge pas le lecteur qui pourrait se reconnaître dans ce personnage puisque c'est aussi une partie de moi. Donc, je me sens jamais supérieure. J'ai toujours l'impression d'avoir des affinités, même avec le plus salaud de mes personnages.
Alors, quand tu dis que tu te répartis un peu dans tes personnages, je prends un autre de tes romans, Le Beau Monde, où là, c'est un film, mais c'est un roman hyper choral parce qu'il y a beaucoup de voix.
Et cinématographique.
Et cinématographique, ouais, parce qu'on a vraiment les. Moi, ça m'a fait penser à Un mariage de Altman, par exemple, où, en fait, il y a tout qui se. Enfin, il y a une surface, après ça se craquelle très vite. Là, tout le monde, avec son angle, avec sa subjectivité, va juger la mariée qui ne vient pas au mariage. Donc, tu t'es projeté dans chacun de ces petits personnages-là.
Alors,
c'est vraiment... Une petite part de toi-même.
C'est un roman polyphonique. En fait, quand Albin Michel m'a demandé si je pouvais faire un roman pour eux, alors que je n'avais jamais fait de vrai roman, j'avais fait une autofiction, mais sous la forme de brefs fragments, j'avais fait des micro-romans, j'avais fait un récit, mais un vrai roman de 200 pages, je n'avais jamais fait ça. Mais bon, quand un grand éditeur vous demande si vous savez faire quelque chose, vous dites oui en espérant que c'est la méthode Coué qu'on va y arriver. Et j'y suis parvenue, hein, quand même, en, je crois en 15 ou 18 mois, j'ai tout arrêté, je me suis endettée, je m'y suis mise. Et j'y suis parvenue, je crois que j'y suis parvenue. Enfin, eux, ils ont trouvé que j'étais parvenue, et je crois à moi aussi. Je me suis inspirée de la modification. Oui, c'est la modification de Butor. Oui, c'est pas la métamorphose, la modification. C'était 12 heures, de 3 heures l'après-midi à 3 heures du matin, dans une suite. Au départ, c'est un grand mariage avec 500 invités. Et la seule chose un petit peu artificielle, c'est que l'idée, c'était de mener l'enquête pourquoi cette mariée ne venait pas à son mariage ultra chic. Elle était roturière, elle épouse un grand aristocrate lyonnais. Et savoir pourquoi elle ne venait pas. Et je voulais avoir un portrait un peu en creux, enfin, que tous les personnages essaient de s'exprimer pour mener l'enquête et aussi faire son portrait. Évidemment, plus ils boivent, plus leurs mauvais penchants ressortent et plus c'est à charge.
Donc ça devient. Ils s'enfoncent pas mal.
Ils passent d'une enquête à un procès.
Oui.
Le vrai personnage, pour moi, c'est la foule. C'est la foule des médisants. Je suis très flaubertienne, donc j'adore travailler sur l'imbécilité. Et pour moi, c'est une foule de crétins malfaisants. Mais pour que le roman soit intéressant et qu'il ne soit pas redondant, j'ai dû attribuer à chaque personnage, chacun l'a initié ou l'a connu dans un contexte particulier. Donc, je parle à un moment de politique, à un moment de sexualité, à un moment de religion, à un moment, j'explique comment elle a appris... à bien se tenir, à avoir du bon goût. Un autre va parler de l'aspect littéraire. Alors, il y en a très peu qui reviennent, mais j'ai dû partager un peu tous ces aspects entre les différents personnages. Mais comme disait Stephen King, en fait, on ne parle bien que de ce que l'on connaît, sans quoi il peut y avoir quelque chose d'artificiel, sauf les très grands écrivains qui peuvent se projeter, je ne sais pas, dans un Hobbit, par exemple, mais... Moi, je ne suis pas sûre d'y parvenir. Ou alors, ce Hobbit ressemblerait beaucoup à quelqu'un que je connais.
Toi, tu ne dis pas Emma Bovary, c'est moi. Tu dis nous sommes tous des Bouvard et Pécuchet, en gros.
Je dirais que j'aimerais qu'on cesse d'être des Bouvard et Pécuchet. Mais je dis un nous.
Oui, il y a du boulot. Hein.
Et ce n'est pas les autres. Hein. Je me sens moi-même assez désemparée face à la sottise ambiante. Pardon. Et aussi, à la malveillance. Parce que si on est bête et aimable, moi, je trouve qu'à la limite... Alors, c'est peut-être moins intéressant... Mais c'est plus agréable pour l'univers, la planète, l'humanité en général.
Alors, Mioune, on vient de faire quasiment 18 minutes sur une seule carte.
Ah oui, je ne savais pas s'il y en avait plusieurs.
Ah oui, il y en a plusieurs. J'aimerais que tu en tires une seconde. Ça, c'est un truc pour faire rebondir l'interview, pour lui donner du mouvement, de la dynamique, etc. Je dis ça avec beaucoup d'ironie parce qu'en fait, elle se crée toute seule, la dynamique.
Je peux être très concise aussi avec une carte. Hein.
Non, mais on est libre de tout. C'est la carte numéro 47, pont céleste, possibilité d'union. Oula, alors là, il faut trouver une question avec la possibilité d'union. Donc, on a parlé de l'union avec les personnages. Ça me fait le déclic, parce que moi, il y a quelque chose qui me fascine chez toi. C'est la façon dont tu t'unis avec ton lectorat, la façon dont tu vas à sa rencontre. Ça, c'est tout un aspect qu'on évoque relativement peu quand on est écrivain, c'est qu'après, le livre, on est bien content de savoir qu'il existe, mais il faut aussi que les autres le savent. Et là, pour Made in Korea, mais pour les autres aussi, tu es au front ces temps-ci. Hein. T'as retroussé tes manches, t'es un véritable petit soldat et qui y va, quoi.
Alors, c'est vrai, un peu moins que Nicolas Feuze, quand même. Oui, parce que lui, il mouille vraiment sa chemise.
Lui a mis
la
barre.
Oui. Ah oui. Alors, je crois que... Et moins qu'Amélie Nothomb, qui écrit, je crois, de façon manuscrite à tous ses lecteurs. Mais j'ai pour habitude de répondre à tout le monde. On m'écrit un message, évidemment, je réponds. Et je réponds, si possible, de façon aimable. Et quand je dispose de temps, je peux même écrire une assez longue missive à quelqu'un que je ne connais pas du tout. Je pense que c'est une question de respect. On ne peut pas demander... moi, j'aime beaucoup la symétrie. Donc, pas la symétrie, l'apostrophe, la symétrie. C'est aussi en deux mots, mais avec la. donc l'article là. Et je trouve que c'est assez injuste de demander à des gens de passer 12 heures avec nous et de ne pas accepter de passer une seconde avec ces gens-là. Et je trouve que c'est aussi amusant de voir comment les gens perçoivent l'ouvrage avant, après. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un autre... je crois qu'on avait dit qu'on se tutoyait, mais j'ai l'impression que tu me vouvoies, non ?
Oui, j'ai des réflexes aussi qui me reviennent.
Ok, non, mais je ne veux pas paraître un peu lié à l'antenne. On peut se vouvoyer, tutoyer
non,
de temps en temps.
Non, on va se tutoyer, je préfère.
Mais oui, donc tu as raison, j'ai ce rapport-là à mes lecteurs. Mais bon, j'ai ce rapport-là avec les gens en général. Mm-hmm. Je suis extrêmement sévère, globalement. Je suis une misanthrope, philanthrope. C'est-à-dire que j'aime les gens, j'ai envie qu'ils aient des droits. Je serais vraiment là pour me battre contre la peine de mort. J'ai des valeurs très, très claires. En revanche, les gens me fatiguent vite. J'aime pas le small talk. Je suis vite exténuée parce que je suis un peu comme une éponge très empathique et je perçois la tristesse de la personne qui m'a parlé deux secondes, de la femme au loin qui est délaissée, du monsieur qui est frustré là-bas. Donc, c'est un petit peu épuisant. Mais en même temps, j'ai la joie à rencontrer les êtres humains. Et donc, je m'intéresse, même si je n'étais pas auteur, je m'intéresse. Et peut-être que c'est ça aussi qui nourrit mes textes, c'est de toutes ces rencontres. Mais c'est vrai que c'est un autre travail. Je comprends qu'il y ait des auteurs...
Il y a des sauvages, hein, ils ne vont pas du tout.
Je les comprends complètement, je les respecte. Après, mon éditeur, Giuseppe Meron de BSN Press, il dit, alors, on passe une sorte de contrat avec l'auteur. Ok, tu n'as pas besoin de faire de promo, tu n'as pas besoin de mettre tes photographies sur les réseaux sociaux. Parfois, ça peut ressembler à du racolage, mais bon, ma foi, après, il ne faut pas se plaindre si tu n'as pas d'article dans les journaux, si personne ne vient à tes dédicaces. Et c'est assez dur de se retrouver seul face à une salle vide quand on est venu plein d'espoir, plein d'envie de partage. Donc, je pense qu'il faut accepter d'aller à la rencontre des autres.
Mais toi, tu t'investis, je vois ça. En tout cas, je suis attentivement depuis la sortie de Made in Korea. Tu es sur tous les fronts. C'est ça où j'évoquais le petit soldat, comme ça.
C'est vrai, mais ça fera bientôt 13 ans que... Oui, ça fait déjà 13 ans que je publie, donc encore davantage, parce que j'ai refusé même le premier livre pendant une année. Donc ça fait vraiment longtemps que... Ça fait 15 ans, je dirais, que j'espère être auteur. Et maintenant, j'ai la gratitude pour toutes les personnes qui m'invitent, toutes les personnes qui acceptent de se déplacer. Donc pour ceux-là... oui, je vais partout et parfois c'est trois fois dans la même journée. J'ai eu un week-end où j'avais trois salons dans trois villes, dans deux pays différents, avec trois tables rondes en 26 heures. Et j'y suis allée. Et le dernier où je pensais être exténuée, il y avait la K-pop, je me suis dit, les gens vont aller voir les jeunes, les beaux jeunes hommes, les charmantes jeunes femmes qui dansent, qui chantent. Ils vont pas venir écouter. En plus, probablement, il y en a plein qui parlaient pas le français, qui venaient de Zurich. Je sais, j'y vais quand même. J'étais un peu désespérée dans mon bain à 2h du mat, fatiguée, parce que j'avais pris un hôtel juste pour être là le matin même. Et finalement, tous mes livres sont partis en une demi-heure. Les tout jeunes de 20 ans ont pris des selfies comme si j'étais une star de cinéma. Et ça m'a énormément émue. J'ai eu la grande scène où les artistes de K-pop s'étaient produits. Donc, ils avaient la délicatesse de ne pas programmer quelqu'un en même temps que moi. Alors, il y avait quand même un vrai concurrent, c'était la nourriture coréenne, parce que c'était midi, et qu'il y avait, après, quand je suis allée, il n'y avait plus rien, tellement c'était délicieux. Mais il y a toujours des miracles, en fait. Donc, on va parfois en se disant, bon, on renacle pas, mais on s'attend, on vient avec son armure en se disant que ça va être très difficile. Et finalement, c'était un moment de grâce, mais inouï. Et ça a débouché sur d'autres invitations dans plein d'endroits de France, des salons coréens, qui ne sont même pas des salons littéraires. En fait, je vais représenter la littérature coréenne là-bas, alors qu'il y a des stars de la littérature coréenne que j'ai lues, qui sont vraiment des génies. Et ils m'invitent moi, donc on a une chance inouïe parfois.
Ça veut dire quoi ? Que ces génies sont moins accessibles que toi ? Que toi, tu es plus disponible ?
Ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont pris de sympathie pour mon texte ou pour moi, je pense, simplement.
Et puis que tu assures, quoi. Tu viens, tu réponds favorablement.
Il y a ça, et je crois que aussi, contrairement à ce que j'attendais, c'est que ce livre-là, les gens l'aiment, en fait. Mmh. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai eu une année et demie de refus pour le livre précédent. Alors, les gens ont cru que je faisais que des uppercuts, mais entre deux, j'ai travaillé 4 ans sur un ouvrage qui n'a toujours pas trouvé d'éditeur, qui est encore dans les tiroirs, ou être en train d'être recyclé chez les éditeurs et dans mon propre tiroir. Je ne l'ai plus renvoyé depuis un moment. Mais comme je ne publie rien depuis 3-4 ans, eh bien, je me suis dit, j'en fais un petit chez mon éditeur suisse qui aime, qui a confiance, qui soutient ce que je fais. Et j'adore cette collection plutôt brève. Alors là, il est plus long que les autres parce que mon éditeur m'a dit, fais-en un de 100 pages, pas de 50. J'ai dit, bon, ok.
Je vais me forcer.
Et là, j'avais du matériel pour beaucoup plus. Mais on s'était mis d'accord sur 100 pages. Et les gens aiment ce texte. Ils veulent une suite, ils aimeraient une adaptation. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que c'est un ouvrage qui parle d'adoption, du diabète, le personnage est fragile. Peut-être que c'est moins un manifeste littéraire. Il y en a qui sont beaucoup plus intello, qui sont plus exigeants de la part du lecteur. Ou je ne sais pas, celui-ci a peut-être une profondeur que je ne soupçonnais pas.
Mais ton précédent aussi, qui est dans la même collection, qui parlait d'une relation amoureuse via l'escrime.
Ah oui, oui.
Celui-là, moi, je l'ai adoré aussi. Il serait aussi très cinématographique, d'ailleurs.
Oui. Je pensais que tu faisais référence à Popcorn Girl, qui a été entre deux, qui est aussi un uppercut, qui est sur une jeune femme qui part aux États-Unis, mais comme son but ultime, c'est de perdre sa virginité en devenant pom-pom girl pour séduire le capitaine de football américain. C'est peut-être pas le sujet qui convenait pour les classes. Alors que Le Beau Monde a été pris même à la Mathieu... dans un collège, je ne sais pas si vous, ici vous dites gymnase, suisse.
Oui, on peut dire aussi, ouais. Ça dépend des cantons.
Voilà, parce qu'en France, collège, c'est pour les petits, alors que là, c'est vraiment pour passer la matu ou le bac. Oui, c'est ce que m'a aimé. Alors, il était finaliste d'un prix franco-suisse, donc L'aide frontière, passe à des vrais romans de 200 pages, avec 50 pages. Mais je l'aime aussi beaucoup, c'est vrai. Ou peut-être aussi, parce que maintenant, les gens commencent à me connaître. Et donc, j'ai un lectorat beaucoup plus vaste qu'à l'époque de C'est ce qui m'a aimé.
Ta marque de fabrique, c'est quand même de prendre ce prétexte du sport pour aller explorer plein d'autres trucs.
On dirait que tu as parlé avec mon éditeur parce qu'il me dit « Comment tu as trouvé moyen de détourner la consigne ?» Je me dis « Non, mais j'adore les contraintes. » Mais c'est vrai que, disons, on ne voit pas progresser aucun de mes personnages
non,
en sport.
Vraiment,
je parle beaucoup de sport.
Oui,
mais... Moi, j'en ai fait un moment, jusqu'à mes 17 ans, j'en ai fait beaucoup. Et puis ensuite, j'en ai plus fait du tout. Et là, avec le diabète, j'ai refaire une demi-heure de gym par jour. Mais c'est vrai que depuis ma promo, j'en fais plus du tout. Donc, je ne suis pas une grande fan de sport. Si j'adorais, je pense que j'aurais le temps de le faire. Là, j'ai une bonne excuse de nouveau.
Oui, 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 il y a la promotion, donc oui. Voilà. Hein. Une nouvelle carte, s'il te plaît.
Oui, volontiers. Alors, celle-ci.
C'est la carte 62, le feu follet, trésor caché dans l'ombre.
Ah, mais j'aime bien ces cartes.
Trésor caché dans l'ombre. J'ai envie de revenir sur ta façon d'écrire parce que j'ai lu un article où le titre c'était une citation de toi, je suis une styliste. Et quand je te lis, je vois que chaque mot a l'air d'être bien posé à sa place. Exact. C'est-à-dire qu'il est, tu l'as fait sortir de l'ombre pour le mettre dans la lumière et que avant ça, il y a eu du job. Donc, juste avant, tu m'as dit 3-4 ans pour écrire un livre. Ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes. Donc, ça veut dire que tu ciselles.
Surtout que mes ouvrages sont brefs. Hein. Mm-hmm. J'ai peut-être utilisé même pas 30% du temps, par exemple, pour Le Beau Monde. J'ai écrit le livre peut-être en 5 mois. Et après, il m'a fallu presque le triple du temps pour le relire. Donc, j'utilise la méthode du gueuloir de Flaubert. Alors, c'est très fastidieux. Je lis tout mon roman au dictaphone et ensuite, je réécoute. Donc déjà, au moment où je le lis, je me dis « Ouf, ça sonne mal ». Et ensuite, quand je l'écoute, je me dis « Ça sonne très, très mal ». Je le lis aussi intégralement à des gens. Donc, Le Beau Monde, à un moment, je voyais que tous ces témoignages qui se succédaient, c'était un petit peu fastidieux à lire. Donc, je me suis dit, ça ne suffit pas d'avoir la chronologie du mariage et la chronologie de la vie de mon personnage. mais il faut encore organiser ça autrement. Et je me suis dit, bon, les 10 commandements, ça avait déjà été pris.
Un peu.
Oui, les 7 péchés aussi. Et je me suis dit, il y a les 7 sacrements. Ça n'a pas été encore utilisé. Et alors, même si je ne suis pas une fervente croyante, eh bien, ça m'a amusée de prendre. Il y avait mariage, funérailles, c'était parfait.
Mm-hmm.
Et après, j'ai... Bon, c'est de façon plutôt laïque, mais j'ai utilisé les différents sacrements. Alors, j'ai dû, évidemment, tout déplacer. Et comme c'est une enquête, il y avait des éléments qui apparaissaient trop tôt ou qui il fallait ensuite quand on lisait c'était pas clair parce que où j'avais déjà dit les choses donc il y avait une répétition donc j'ai dû le lire intégralement à 2 personnes pour me dire ah comme lui il peut pas comprendre ça il faut que je rajoute l'information. C'était assez pénible mais je crois vraiment enfin on me dit que ce sont des cathédrales et c'est vrai que alors là je crois que la citation complète si je ne m'abuse c'était je ne suis pas une styliste je suis une styliste je ne suis pas une conteuse parce qu'il y a des gens qui arrivent à faire de grandes fresques avec des événements incroyables et alors là je peux citer Catherine Cusset qui aimerait bien faire ça aussi et elle dit qu'elle peut écrire sur des micro choses. Bon là elle a fait un très bel ouvrage sur David Hockney le peintre. Et là, elle a fait quand même, moi je trouve que c'est quand même une fresque. Mais sinon, elle a travaillé, notamment dans Confession d'une radine, sur des petits travers de sa personne. Et ça reste un immense livre, un très très beau livre. D'ailleurs, elle est chez Gallimard, et c'est une grande dame de Gallimard. Et je crois qu'il y a des gens qui arrivent à raconter des immenses histoires. Et moi, je raconte des petites histoires. Donc il faut que ça soit impeccable.
Mmh.
Et je relis. C'est pas parce que c'est juste que ça me convient. Il y a des auteurs qui me disent, je relis 3 fois. S'il n'y a pas de faute, c'est bon. Moi, si c'est pas la meilleure version de ce que je peux faire, je suis pas du tout satisfaite. Et quand je me relis, par exemple, pour faire une lecture donc en public, il y a des choses que je trace encore au stylo rouge de mon texte. Et la version que les gens entendent est une version qui est améliorée par rapport à la version publié.
C'est facile de lâcher pour toi le texte, signer le bon à tirer et qu'il parte faire l'impression.
Et à un moment, je ne peux plus voir mon texte. À un moment, je l'ai tellement relu. Je crois que c'est Flaubert qui avait dit à Maupassant le travail, c'est de la patience. Le talent, c'est de la patience, jeune homme, travailler. Et c'est vraiment ça, où je sais plus si c'était Beethoven, mais un autre qui a dit c'est 5% d'inspiration et 95 ou 85% de transpiration.
Ouais.
Et je crois, pour moi, c'est ça. Pour d'autres, c'est d'avoir un imaginaire, une construction incroyable. Pour moi, c'est que chaque phrase soit. Je ne peux pas dire parfaite parce que tout est imparfait et quand je relis, j'ai encore envie d'améliorer, mais d'aller le plus loin possible dans la beauté de la langue, dans la musicalité du texte. Et je lâche très peu quand j'ai des correcteurs des maisons d'édition. Parfois, je ne suis pas d'accord avec eux et je suis prête à argumenter vraiment des heures pour une virgule. Bon, les virgules, je ne suis pas très bonne. Alors, je ne dirais peut-être pas pour une virgule, mais pour un terme.
Mmh.
Parce que je suis très sensible aux connotations, c'est comme si chaque mot avait une couleur et je veux pas une couleur céladon si c'est un peu plus c'est un turquoise plus foncé, enfin j'en sais rien, c'est vraiment la couleur Pantone précise.
Trésor caché dans l'ombre, ça parle aussi des livres qu'on a envie de faire publier. Donc tu me dis qu'à tes tout débuts, c'était pas évident d'avoir les portes qui s'ouvrent dans les maisons d'édition. Qu'est-ce qui fait qu'on s'acharne, qu'on dit qu'on lâche pas le morceau?
Ben là, c'est encore le cas maintenant. Hein, donc, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas professeure, donc je pense que quelque part, inconsciemment, je dis souvent, hein, je n'ai pas eu 2 mois le même salaire, je pense qu'inconsciemment, il m'a fallu beaucoup de temps, parce que mon premier livre publié, c'était à 36 ans, pour me permettre d'être auteur. Mais c'est que fondamentalement, c'est ce que j'ai envie de faire. Alors peut-être, il y a des moments où j'ai envie d'arrêter de lire, de regarder des films, d'aller me balader et de cesser, ben, par exemple, de promouvoir. Et en même temps, ben, je ne sais pas, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui organise mon existence, c'est ce qui donne sens à mon existence. C'est une famille aussi, c'est la famille des lecteurs, c'est la famille des écrivains, c'est la famille des artistes, c'est la famille des intellectuels, on est au carrefour de beaucoup de choses. Et puis c'est aussi la famille des humanistes, Je ne saurais pas être médecin dans des, je sais pas, des terres où il y a des conflits. Je pense que je n'ai pas le cran, ni pour voir la souffrance, et je n'aurais pas le courage d'être là. Alors peut-être que ma manière d'être au front, c'est d'essayer de lutter contre la sottise, contre la vision binaire du monde, contre... J'ai envie que les gens réfléchissent par eux-mêmes, qu'ils gagnent une autonomie de pensée. Et mes textes, qui sont tellement ambigus, qui laissent souvent les gens perplexes, permettent peut-être de ne pas donner une pensée toute faite et de ne pas réconforter les gens dans leurs croyances, dans certains dogmes. Je ne sais pas. Alors, c'est ambitieux, mais j'essaye
Donc c'est
d'apporter
ce
ma
qui
petite...
fait que, par exemple, maintenant, tu as ce livre dont tu as parlé qui est là, que tu essayes de faire publier en France, hein, et puis ça passe pas parce qu'on te dit que c'est trop ambigu, trop bizarre, trop trash, je sais pas.
Il est trop subtilement mauvais genre, ouais, ou atypique. Parfois, j'ai l'impression qu'on aimerait encore avoir un vidéoclub où on pourrait classer les ouvrages dans des catégories science-fiction, polar. Alors, on m'a dit, un grand éditeur parisien m'a dit, c'est pas assez fantastique ou pas assez roman policier. Ben, je dis justement, oui, ça n'est ni l'un ni l'autre, c'est les deux.
Donc ils aiment avoir des catégories bien carrées. J'ai cherché le terme, mais carré, ça ne s'impose.
C'est un petit peu ça, c'est pas clairement féministe, alors qu'il y a quand même la femme a subi quelque chose de très douloureux, mais elle n'est pas forcément sympathique, ou elle n'est pas tout le temps sympathique. Et c'est un peu ce qu'on me reproche, c'est qu'on n'arrive pas à. Moi, j'espère qu'on a de l'empathie pour même les deux personnages, même celui qui n'a pas forcément le beau rôle, à des moments émouvants, quand il se trompe complètement, il est touchant, je trouve.
Alors, Mignon, il faut écrire à l'américaine. Il faut que le gentil soit vraiment gentil, tout blanc.
Mais moi j'aime bien Elroy. Et
Ah
lui, il
oui,
n'est
alors
pas
lui.
toujours sympa, hein,
Ah
non
non,
plus.
alors non, puis même ses héros sont des crapules, souvent. Hein.
Oui. Et c'est
Donc.
ça qui est fascinant.
Et pourtant, Elroy est publié, est considéré comme un maître aussi en France. Hein. On a, surtout depuis le Dahlia noir, tout le monde lui déroule le tapis rouge. Alors qu'il a. Alors, ça, peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi. Mais quand il a fini toute sa saga autour des flics à Los Angeles, il a commencé à se regarder écrire beaucoup. Et du coup, ça se faisait un peu défaut au détriment de l'intrigue.
Moi, j'ai quand même aimé Perfidia, même si on dirait des minutes d'un procès. Au début, je me suis dit, c'est un peu pénible d'avoir à chaque fois le lieu, vraiment comme une enquête, une vraie enquête, pas comme un roman. Et ensuite, Tant de noirceur m'a fascinée. Tout le monde est pourri. Je crois que même Bette Davis s'en prend pour son grade. Et moi, j'aime les romans qui sont parfois assez antipathiques, qui ne nous prennent pas par la main. Il y a même des auteurs charmants qui écrivent des choses atroces. Et je crois que vraiment, autant j'ai l'admiration pour les gens qui sont bons, autant la noirceur dans les œuvres d'art me fascine. Parce que c'est aussi quelque chose qui nous permet d'être dans la tête des salauds, parce que c'est eux qui nous posent problème. Donc il faut aussi les comprendre.
Quand tu dis œuvre d'art, ça peut être un tableau aussi, du coup.
Ça peut être n'importe quelle œuvre
Donc tu es
d'art.
fan
J'adore le
de.
cinéma.
Ouais.
J'ai pu aimer des personnages qui étaient des personnes ignobles, incestueuses. Ben, on a parlé hier du livre écrit par Béatrice Rian, ces gens-là. J'ai vu un film, je crois que c'était Seul contre tous, le premier long métrage de Gaspard Noé, qui est très connu maintenant pour d'autres films. Si je me souviens bien, c'est l'histoire d'un boucher incestueux, raciste, mais. Alors, je vais divulgacher, au moment où il se sépare de sa fille, j'étais profondément triste parce que je savais que c'était la seule personne qui l'aimait, pas de la bonne manière certes, mais si on arrive à être aimé par une telle personne, alors on est contre la peine de mort, on a envie aussi de pas de, ça rend rien légitime, de pas, on n'a pas envie de les excuser, mais on a envie de les aider en amont. Et je pense que l'art est aussi fait pour déranger. Par exemple, on a vu Anatomie d'une chute récemment avec mon mari. Là aussi, on ne sait pas si la femme a poussé son mari par la fenêtre du chalet. Et c'est ça qui est beau, c'est que on essaie de la comprendre. On a envie qu'elle soit innocente parce que sinon, ça serait vraiment trop atroce. Et en même temps, on sent que cette relation est dysfonctionnelle et on ne sait pas qui est toxique. Si le plus gentil est une main de fer dans un gant de velours. Ou si c'est elle qui a une main de velours dans un gant de fer. C'est c'est délicat et moi c'est ça qui me passionne.
J'ai revu un film hier soir qui est un classique du cinéma qui s'appelle Le Limier.
Je ne crois pas l'avoir vu.
C'est un film qui nous manipule de A jusqu'à Z, où toutes les, les situations s'inversent. Le personnage semble être une victime, après il devient un bourreau, après il redevient une victime, après il redevient un bourreau.
Ah, je vais l'adorer alors.
Il est joué par Michael Caine et puis Laurence Olivier dans une version de 1972.
Et le réalisateur, c'est...
C'est Mankiewicz.
Immense réalisateur, oui.
Et je l'avais vu il y a très 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 longtemps, et il y a deux ou trois petits moments où c'est mal vieilli, mais tous les personnages deviennent antipathiques à un moment ou sympathiques. On peut les comprendre.
Il est très fort pour l'ambiguïté. Si je ne m'abuse, Chaîne conjugale, c'est aussi lui.
Je crois.
Il me semble, parce que c'est de Chaîne conjugale que je me suis inspirée pour Le Beau Monde. Parce que c'est trois femmes qui montent sur un bateau et elles savent que l'une d'entre elles a perdu son mari qui est parti avec une fabuleuse dame, Adi Ross, qui est la femme parfaite, l'absolue, la femme fatale parfaite, disons, parce qu'il y a d'autres femmes qui sont parfaites et qui ne sont pas forcément fatales. Et pendant tout le film, il y a des flashbacks pour voir la relation de chacun des maris avec cette Adi Ross. Ou comme Rebecca, où il y a cette absente qui prend tellement de place. Et c'est ce film de Mankiewicz et aussi le roman de Daphné du Maurier, qui a aussi été adapté d'ailleurs, qui m'ont inspiré pour Le Beau Monde. En fait, c'est Arlésienne, où le personnage n'est pas là, mais l'omniprésent.
Une dernière petite carte pour la route.
Volontiers. Pardon, j'en ai deux même qui viennent.
Alors, on va prendre celle-ci. La 39. Et détox, éliminer les pensées toxiques. Ça m'amuse beaucoup parce qu'en fait, on va dans un sens, toujours ce côté positif de la vie, toujours être... plus on avance, plus des fois, ça nous casse un peu les pieds de vouloir être parfait, de vouloir toujours enlever les mauvaises choses de sa vie, de se coller dans un moule. Et quand on te lit, en fait, toi, les personnages qui sont coulés dans les moules, c'est pas ça qui t'intéresse du tout.
Non, c'est vrai. En plus, j'ai travaillé sur un toxicomane. Avec un toxicomane, enfin un ancien toxicomane, c'est-à-dire que j'ai écrit un récit...
Où tu racontais sa vie.
Qui s'intitule exactement « On ne dit pas je ». Et c'est l'histoire d'un ami qui a été toxicomane et punk pendant 17 ans. Et c'est sa vraie histoire. Je devais travailler sur un photographe de guerre qui travaillait pour Le Monde et Paris Match, un coréen adopté. Et on avait normalement une maison d'édition qui était avec nous, une grande maison d'édition parisienne. Et j'ai appris, en entendant une allocution de Hollande, qu'il était décédé en Syrie. Il était avec les rebelles, il a pris un obus, il avait 37 ans, il s'appelait Olivier Voisin. Et c'était un choc, vraiment à tous les niveaux, parce que c'était quelqu'un d'extrêmement attachant. C'est devenu un ami, il y avait le projet littéraire. C'était évidemment comme un frère, puisque coréen adopté, on avait vraiment une jamélité comme ça. Et je suis allée à ses funérailles en revenant de Givry. Et je me suis retrouvée dans un bar, évidemment. Et à ce moment-là, il y a cette amie qui m'a dit « Tu ne voudrais pas faire un livre sur moi ?» Non, franchement, là, je ne sais pas, il me faut un peu de recul. Elle m'a dit « Mais c'est sur ma vie, j'étais toxicomane. » Et moi, je m'étais dit que c'est vrai, comme DJ, il n'est pas très glamour. Hein, il n'est pas du tout, androgyne, pomponné. C'était un gars très... costaud, tatoué, vraiment, on aurait dit une sorte d'ours comme ça. Et je dis, écoute, je veux bien voir, j'ai écrit mon bilan d'existence, je ne veux pas le lire, je dis volontiers. Et quand j'ai lu, je me suis dit, mais il a beaucoup d'autodérision, il n'essaye pas de se trouver des excuses, il est très conscient, très lucide. Et j'avais envie d'aller vers quelque chose de plus, un peu plus trash, un peu plus masculin, un peu plus au scalpel, un peu plus au ras du trottoir. Alors c'est le seul texte, je crois, que je n'ai pas écrit au passé simple, parce qu'il se shoota, il prit son fixe, ça ne sonnait pas très bien.
Ça ne sonnait pas bien, oui.
Non, pas bien du tout. Et j'ai travaillé donc sur une forme de détox, mais vraiment comment il a pu arrêter de se droguer. Mais en revanche, je n'ai ni trouvé la raison pour laquelle il est tombé réellement là-dedans, un peu pour trouver une famille, pour se faire accepter. Mais je ne sais pas non plus. Alors, il y a un moment clé où il décide d'arrêter et il y parvient, après un nombre incroyable de cures de désintoxication. Donc, oui, il y a une sorte de détox, mais ce n'est pas celle du bobo que moi j'essaie de pratiquer pour être un petit peu, pour arrêter le whisky et puis manger bio.
Qu'est-ce que ça nous apprend sur nous-mêmes de rencontrer de tels personnages ?
Ah, mais on peut. Je pense que dans toute personne, si on va chercher, comme dirait Elroy, sa part d'ombre, je pense qu'on peut apprendre de tout le monde. Certains s'expriment mieux que d'autres, donc le disent de façon plus intéressante, plus avenante. Il y a des gens qui ont des histoires incroyables, et quand ils l'expriment par écrit ou par oral, on dirait que c'est d'une banalité triste, alors qu'ils ont peut-être pas de l'or, mais quelque chose qui pourrait passer au stade de diamant, mais qui reste une sorte de charbon.
Ils s'auto-détruisent eux-mêmes avant, quoi. Ou ils essayent.
Alors ça, je pense qu'on est tous un peu au bord du précipice, mais ensuite de savoir le transmettre, je pense, c'est pour ça que je reviens à Béatrice Rian avec son ouvrage Ces gens-ci, qu'elle a fait avec, je crois, Sarah Briguet, et avec une postface de Yves Godin, et puis une très belle illustration d'une Nadine, en tout cas son prénom, Corinne adopté. Je crois qu'ensuite il faut quelqu'un qui ait le talent pour transmettre ce que l'on a vécu, qui est quelque chose de puissant, qui pourrait intéresser tout le monde. Mais s'il n'y a pas un messager qui arrive à porter avec des termes adéquats, on peut
passer à côté.
Ouais. Oui, les personnes, les auditeurs ou les lecteurs peuvent ne pas comprendre la douleur qui a été vécue, qui est singulière.
Donc on doit être le meilleur des vecteurs possible, le meilleur des transmetteurs, moi je dis passionneur pour moi.
Passionneur, oui.
Ouais, pour faire en sorte que les gens reçoivent bien ce qu'on veut faire passer, puis s'il y a une ambiguïté, elle est décidée.
D'où l'importance du style, des choix littéraires, de la focalisation, en effet.
On va terminer cette interview, et après, est-ce que j'ose te demander ce que tu vas faire aujourd'hui, dimanche 22 octobre, jour d'élection?
Alors je vais aller prendre un TGV, parce que demain, je vais rencontrer une éditrice coréenne qui est allée à la foire de Francfort, qui passe par Lausanne. Et je vais juste aller luncher avec elle au train bleu, parce qu'elle a eu la gentillesse de m'accorder du temps.
Donc tu vas jusqu'à Paris, gare de Lyon, puis au train bleu, c'est ça, hein ?
Alors je vais dormir à Paris.
Ouais.
Et ensuite, comme il n'y a pas de train direct pour Lausanne, j'ai une interview demain soir Redline Radio, je crois, à 19h30. Oui, 19h30, avec entre autres Flavio Diaz et je crois Alex Vazem. Eh bien, je vais devoir passer par Genève, rester dans la gare, prendre un train pour aller retourner à Lausanne et aller à mon interview le plus rapidement possible.
Eh bien, bon courage, Lorvio.
Merci beaucoup.
Et toute la force possible.
Merci.
Comment dire, avec les étoiles, que la force soit avec toi. Voilà.
Merci infiniment, Joël.
Mais c'est un plaisir. Made in Korea, sorti voici quelques semaines, poursuit sa promotion et tournée dans les librairies romandes. Vous auriez tort de vous priver d'un échange dédicace avec Lormeyun Crozet.